Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens, l'émission Revue de presse en ce 30 janvier 2018. Hélène Denis avec vous. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Avez-vous mis vos crampons ce matin?
Non.
Non?
Non.
Est-ce que vous le regrettez?
J'ai réussi à me rendre sans péripéties.
Sain et sauf.
Mais j'avoue qu'hier, à la sortie de l'autobus, une personne a chuté.
Oh non!
Et plusieurs autres, dont moi-même, avons failli avoir le même sort. Assez dangereux, faut se le dire.
Et avec le froid, là, ça dégèle pas vite. Là-dessus... Fin janvier ou presque, hein? On est le 30 aujourd'hui.
Nous sommes le 30 en effet, on change de mois très bientôt. Et en ce 30 janvier, si vous avez des enfants et qu'ils vont à l'école et que leur transport scolaire n'est pas annulé aujourd'hui pour cause de grève...
Est-ce que vous faites partie de ces parents-là?
Ayant un enfant préscolaire, je ne suis pas encore touché par cela.
Okay, d'accord, c'est vrai, vous êtes tellement jeune.
journée scolaire de la non-violence et de la paix. Et je rebondis là-dessus car c'est un 30 janvier qui est vraiment sous le signe du sang, sous le signe de la violence. D'abord, en 1649, un 30 janvier, le roi Charles Ier est décapité à Whitehall. On note qu'à ce moment-là, plus de monarchie pendant 10 ans en Angleterre, alors sous le joug d'Oliver Cromwell. Également, 1948, à New Delhi, Mohandas Gandhi, le Mahatma, est assassiné par un fanatique. 1835, la première tentative d'assassinat d'un président a lieu contre Andrew Jackson à Washington. L'agresseur armé de deux pistolets le rate et Jackson lui assène des coups de canne. 1865, aux États-Unis encore, le Congrès vote l'abolition de l'esclavage, officialisant la proclamation de l'émancipation des Noirs faite par Abraham Lincoln le 22 septembre 1862, donc près de 3 ans auparavant. 30 janvier 1880, inauguration du premier chemin de fer sur la glace du fleuve Saint-Laurent reliant Montréal et Longueuil, qui demeurera en service jusqu'en 1883. 1917, premier disque de jazz enregistré aux États-Unis. 1931, Charlie Chaplin présente son excellent film Les Lumières de la Ville. Faut noter que le film parlant existe déjà, mais ce film reste muet. Et par muet, on entend sans bruit, à l'exception de quelques petits bruitages. 1939, cédant aux violences nazies, le président Hindenburg finit par nommer chancelier Adolf Hitler. Le même jour, en 1937, donc 4 ans plus tard, le régime déclara nul et non avenu le traité de Versailles. 1958, à Paris, le couturier Yves Saint-Laurent présente sa première collection. 1969, toujours un 30 janvier, dernière apparition publique du groupe Les Beatles sur le toit de la firme Apple Records où ils interprètent Get Back. 1972, 13 civils sont abattus par l'armée britannique au cours d'une manifestation pacifique catholique à Londonderry en Irlande du Nord. Il s'agit du fameux Bloody Sunday, tel entre autres immortalisé par le groupe U2 avec Sunday Bloody Sunday. 1973, à Washington, messieurs Leedy et McCord sont reconnus coupables dans l'affaire des micros au bureau du Parti démocrate en juin 1972, l'affaire Watergate qui mènera à la démission de Richard Nixon en août 1974. 30 janvier 1991, signe que la vie et les temps changent en jeu. Le commerce des fourrures déclinant, la compagnie de l'abbé d'Hudson renonce à ce commerce vieux comme sa charte royale de 1670. En 2002, la fuite d'un bassin de décantation d'une mine d'or en Roumanie libère 100 000 mètres cubes de solution cyanurée dans la Tisza et contamine ensuite le Danube en Hongrie et en Yougoslavie. 2003, toujours un 30 janvier, 2 ans après les Pays-Bas, la Belgique devient le 2e pays du monde à reconnaître le mariage homosexuel. En 2003, M. Richard Reid, le Britannique, je tente de faire la traduction en temps réel. Prison à vie pour Richard Reid pour avoir tenté de faire sauter un avion d'American Airlines qui avait 197 personnes à son bord. On se souvient de lui car c'est à cause de ce monsieur qui a tenté de faire exploser ses souliers que maintenant, toute personne désirant voyager aux États-Unis doit enlever ses chaussures avant d'embarquer dans l'avion. Donc, prison à vie pour ce monsieur en 2003.
Oui, c'est bien à cause et non grâce.
En 2005, les Irakiens votent dans le cadre des premières élections libres depuis 50 ans. 30 janvier, anniversaire de naissance de Franklin Delano Roosevelt, élu 4 fois président des États-Unis, né en 1882, et décès finalement 30 janvier 1948 du pionnier de l'aviation Orville Wright, bien sûr des frères Wright.
Merci Jean-Sébastien. En une de la presse, sol contaminé de l'école Barry, une sale histoire. Comment peut-on perdre la trace de 3000 tonnes de sol excavé? La question est au cœur d'un débat qui pourrait avoir un impact sur l'avenir et la crédibilité de l'industrie québécoise de la décontamination. La chronique de Mario Girard, Montréalais, cramponnez-vous. Toronto, un tueur en série fait frémir la ville reine. Et pause santé, prévention du suicide, ils ont pris goût à la vie. Les idées noires ont longtemps alourdi leur quotidien, mais plus aujourd'hui. Témoignage. Allons-y avec la chronique de Mario Girard. Montréalais, cramponnez-vous. Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec l'équipe de Valérie Plante. Quand tu viens de te faire élire à la tête d'une ville comme Montréal, tu sais que tu seras évalué durant les premiers mois pour deux choses, l'augmentation des taxes et les services aux citoyens. Or, l'équipe mise en place il y a très exactement 85 jours a échoué sur ces deux points. Vite, un stratège en politique pour conseiller ses élus. Il est évident que la stratégie adoptée par l'administration Plante pour gérer la dernière tempête de neige, qui consistait à attendre un redout, a été un bide total. Après des jours de lamentations et de jurons de la part des citoyens, on a finalement lancé dimanche une opération de déneigement qui devrait se poursuivre jusqu'à demain. D'abord, un mot sur cette approche qui se situe entre la broche à foin et le macramé granola. Comptez sur une hausse du mercure suffisamment longue pour faire fondre la neige alors que nous sommes en janvier et que nous vivons une période de grand remous climatique est une hérésie totale. Rendu là, nommons le rédacteur en chef de l'Almanach du Vieux Fermier, responsable du dossier du déneigement à la Ville de Montréal. Bien sûr, on peut penser que notre situation de ville nordique nous oblige à prendre notre grabat et nos crampons, conseil offert par Marcel Tremblay en 2009, pour vivre de novembre à avril. Mais après 375 hivers, je crois que les Montréalais méritent qu'une approche contemporaine adaptée à leurs besoins soit respectée et prise au sérieux par les élus. Je me suis entretenue avec Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens de la nouvelle administration Plante Doré. C'est à lui que l'on doit cette décision. Il dit aujourd'hui la regretter. Quand je lui ai demandé ce qu'il retenait de cette expérience, il m'a répondu que les soubresauts de la météo n'iront pas en s'atténuant, et que nous devons ajuster notre approche par rapport à la gestion du déneigement. Selon lui, les décisions sur le choix des bons produits pour l'épandage, abrasifs, graviers, etc., sont difficiles à faire avec les changements de température. Oui, il y a l'épandage, mais il y a aussi le déblayage. Et si nous marchons tous depuis une semaine comme R2-D2 sur des trottoirs couverts d'une épaisse couche de glace, c'est que ceux-ci n'ont pas été déblayés, point. Il y a les désagréments liés à la présence de bancs de neige glacés aux abords des rues. Je me suis garée dans la rue Masson samedi et j'ai eu l'impression de manœuvrer un char d'assaut. Mais il y a aussi la sécurité des citoyens. Et on ne badine pas avec cela. Chez Urgence Santé, on m'a confirmé que des dizaines d'interventions de 30 à 40 par jour ont eu lieu au cours du week-end à cause de chutes sur les trottoirs. Les ambulanciers ont dû prendre en charge des gens qui s'étaient fracturés une cheville ou un bras. Le porte-parole Stephen Overhoff me disait que les ambulanciers suivent de près les prévisions météorologiques. « On voit les choses venir », m'a-t-il dit. « Tout cela n'est pas normal. » Il y a la sécurité des citoyens, mais il y a aussi l'insécurité. C'est fou le nombre de personnes qui, au cours des derniers jours, m'ont parlé de leur crainte de tomber et de se faire mal. Pour certains, la peur est tellement grande qu'ils s'enferment chez eux. Je pense à toutes ces personnes âgées qui sont encabanées depuis une semaine chez elles. C'est cette question de sécurité qui a poussé le maire de l'arrondissement d'Anjou, Luis Miranda, à jouer aux dissidents. Dès mardi dernier, ce vétéran de la scène politique municipale a commencé à dire aux élus de la ville-centre qu'une opération de déneigement était essentielle. Des gens dans l'entourage de Luis Miranda l'ont mis au courant d'un incident au cours duquel des ambulanciers ont eu du mal à intervenir à cause d'un banc de neige glacé. Pour une personne qui a des problèmes cardiaques, chaque seconde compte. Pour moi, il était clair qu'on ne pouvait pas attendre que la neige fonde, a dit Luis Miranda. Lors de la séance du conseil municipal de mercredi dernier, M. Miranda est revenu à la charge auprès de ses collègues élus. Jean-François Parenteau a quand même tenu à maintenir son plan, celui d'attendre le redout. Résultat, mercredi midi, Luis Miranda a demandé à son équipe de procéder à un déneigement sur le territoire qu'il gère. Sa décision est aujourd'hui saluée par ses citoyens. Le geste de Luis Miranda n'a pas été apprécié par Jean-François Parenteau. En retour, la longue expérience du maire de l'arrondissement d'Anjou lui fait dire que la décision de Jean-François Parenteau était mauvaise de A à Z. Même s'il avait eu un redout, la neige aurait fondu et on se serait retrouvé avec des lacs partout dans la ville. Et quand on a des lacs, on se retrouve au printemps avec des nids d'autruches dans les rues. Cette affaire de déneigement ratée fait remonter à la surface la guerre de pouvoir qui continue de régner entre les arrondissements et la ville-centre, de même que la tension qui existe entre l'ancienne garde et la nouvelle. Il est évident en tout cas que le courant ne passe pas entre Miranda et Parenteau. Lui, avant qu'il vienne me dire comment dépenser mon argent, m'a dit Luis Miranda. Je suis prêt à accepter les choses quand elles sont logiques, mais quand la personne est incompétente, c'est non. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qui change sa chemise comme il l'a fait pour aller à l'exécutif. Parenteau a quitté le parti Équipe Coderre pour devenir indépendant avant d'être nommé au conseil exécutif. Moi, j'ai très peu de respect pour ces personnes-là. Un chantier d'optimisation du déneigement a lieu en ce moment. Jean-François Parenteau veut revoir la manière de faire. Rappelons que le même exercice avait été fait par l'administration de Gérald Tremblay et par celle de Denis Coderre. Une nouvelle équipe arrive, elle veut mettre les choses à sa main, elle veut améliorer certaines stratégies selon sa philosophie. C'est normal et j'accepte cela. Mais le résultat est que les citoyens ont parfois l'impression de tourner en rond dans certains dossiers. Montréalais, Montréalaise, cramponnez-vous. L'hiver prend fin le 19 mars et selon les ambulanciers, il n'y aura pas de redout avant un bon bout de temps. Un tueur en série fait frémir Toronto. Une histoire sans précédent de tueurs en série secoue Toronto alors que la police est en train de relier à un paysagiste un nombre sans cesse croissant de disparitions. Bruce McArthur a été accusé de 3 autres meurtres hier, ce qui porte le nombre de ses victimes potentielles à 5. Le tueur en série aurait camouflé les cadavres démembrés dans les jardinières de ses clients. La ville de Toronto n'a jamais rien vu de tel, a déclaré hier le sergent-détective Hank Insinga de la police de Toronto, et l'enquête n'est pas terminée. Arrêté le 18 janvier et accusé de 2 meurtres prémédités, Bruce McArthur a été accusé de 3 autres meurtres prémédités hier à Toronto. Résident de la salle que la police de Montréal relie aux gangs de rue fait depuis hier l'objet d'un mandat d'arrêt pour avoir menacé de mort le journaliste de la presse affecté à la couverture des affaires judiciaires, Louis-Samuel Perron. Selon une enquête menée par les constables spéciaux du Palais de justice de Montréal, Volkan Demirel, 27 ans, se serait rendu à la salle de presse du palais et aurait menacé le journaliste pour qu'il s'abstienne de publier certains articles journalistiques sur la conduite de la justice. Comme une plume, tu fais du mine.
Qui dit hiver dit carnaval, et c'est incidemment le titre de la pièce qu'on vient d'entendre de Sarah Bourdon, Carnaval.
Commémoration de l'attentat de Québec, Trudeau s'attaque à la haine envers l'islam. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Québec en hommage aux victimes. On voit les gens habillés chaudement, tenant des bougies. En France, la nation Atikamekw s'affranchit de la DPJ. Quand le logo devient toxique, pourquoi Cleveland retirera le chef Wahoo de ses uniformes de baseball? On voit une photo sous laquelle est écrit la célèbre figure du chef Wahoo disparaîtra des uniformes des Indians de Cleveland à compter de la saison 2019. L'équipe fondée en 1900 conservera cependant son nom. Monde, les États-Unis lèvent l'interdiction d'entrée pour les réfugiés de 11 pays. Les conditions d'admission au pays seront durcies. Ottawa, la vague « Moi aussi » inspire un projet de loi. Yalena, prochain rendez-vous au Mexique en mars. Article d'Isabelle Porter, la population doit se questionner sur son malaise avec le terme « islamophobie », croit le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a profité de la commémoration de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec qui a rassemblé des centaines de personnes pour lancer un appel à un examen de conscience sur le sujet. Pourquoi le mot « islamophobie » nous met mal à l'aise? S'est interrogé le premier ministre dans un bref discours. On a tous peur parfois. Nous avons peur de l'inconnu, de l'étranger. Il faut passer au-delà de cela, mes amis, pour reconnaître nos propres faiblesses en tant que Québécois, en tant que Canadiens, nos propres craintes. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il n'y a personne qui se plaint du mot homophobie, mais l'islamophobie, ça nous dérange. C'est une réflexion que nous allons devoir avoir en tant que société. Pourquoi? Pourquoi ça dérange? Dans le même discours, M. Trudeau a aussi écorché le groupe identitaire La Meute. C'est facile de condamner le racisme, l'intolérance, la discrimination. On sait c'est qui les racistes. C'est l'autre, ce sont les nonos qui se promènent avec des pattes de chien sur leur T-shirt, a-t-il lancé, ce qui lui a valu une salve d'applaudissements. M. Trudeau, le premier ministre Philippe Couillard, le maire de Québec, Régis Labeaume et de nombreux dignitaires prenaient tous part lundi soir à une cérémonie commémorant la tuerie qui a fait 6 morts au Centre culturel islamique de Québec, CCIQ, l'an dernier. L'événement venait clore une longue fin de semaine de commémoration qui avait inclus une rencontre publique avec les familles des victimes à l'intérieur même du CCIQ. Le rassemblement, qui s'est tenu par grand froid, visait aussi à rappeler celui qui avait réuni l'an dernier à pareille date 5000 personnes venues manifester leur solidarité envers les musulmans qui vivent à Québec. Cette fois-ci, ils étaient plusieurs centaines à s'être réunis. Certains avaient apporté une immense banderole noire sur laquelle on pouvait lire « Ensemble contre la haine et le racisme ». On y avait aussi collé les photos de chacun des hommes tués l'an dernier. Après avoir réclamé depuis plus de 20 ans la possibilité de prendre en charge les services de protection de la jeunesse, la communauté des Atikamekw obtient enfin gain de cause et instaure un précédent à l'échelle canadienne. Les enfants Atikamekw qui ont besoin d'aide seront désormais « guéris » entre guillemets dans leur communauté et non plus par le directeur de la protection de la jeunesse, DPJ, se réjouit le grand chef de la nation, Constant Awashish. Ça a été une véritable bataille pour que l'on reconnaisse notre autonomie en matière de protection de la jeunesse, affirme le grand chef Awashish en entrevue au Devoir. Ça a pris du temps pour toutes sortes de raisons, mais on avait une réelle volonté de nous occuper de nos jeunes et on a travaillé très fort pour en arriver à la signature de cette entente historique avec Québec. Quand le logo devient toxique, les Indians de Cleveland enterrent partiellement leur chef Wahoo, écrit W-A-H-O-O. L'uniforme des joueurs de baseball professionnels n'arborera plus le célèbre logo caricaturant un autochtone avec peau rouge, nez et plume d'aigle à partir de la saison 2019. Cette image est décriée comme offensante et même raciste depuis des années. La Ligue majeure de baseball a annoncé le retrait de la représentation graphique après une conversation constructive avec des représentants de diverses organisations de défense des droits des Premières Nations. Les Indians vont par contre conserver leur nom officiel. Les Indians, oui. Le chef indien, non. Ottawa, moi aussi, inspire un projet de loi. Les employeurs fédéraux devront se doter d'un protocole de traitement des plaintes. Le Parlement fédéral a repris du collier lundi, entamant ses travaux avec un débat tout à fait dans l'air du temps, le harcèlement en milieu de travail. Les élus ont convenu d'accélérer l'adoption du projet de loi C-65 obligeant les employeurs, incluant les députés fédéraux, à se doter d'un mécanisme formel de traitement des plaintes. Le débat a été l'occasion pour certaines élues de se vider le cœur. Les femmes sont encore touchées, nos cheveux sont encore caressés, nos épaules sont encore massées. On nous fait encore des accolades ou des baisers sur les joues qui s'étirent un peu trop longtemps, s'est désolée la conservatrice Michelle Rampel. La ministre de l'Emploi et du Travail, Patricia Ajdou, a soutenu que la colline parlementaire est le théâtre d'un déséquilibre de pouvoir qui perpétue une culture où les gens avec beaucoup de pouvoir et de prestige peuvent l'utiliser pour victimiser les gens qui travaillent pour nous. Elle a parlé de son projet de loi comme d'une initiative qui va abattre la culture patriarcale dans laquelle nous vivons, pensée par les hommes pour les hommes. Un policier de la Sûreté du Québec, Denis Burel, n'a pas utilisé son arme d'impact avec prudence et discernement lors de la manifestation du 4 mai 2012 à Victoriaville, tranche le comité de déontologie policière. Cette manifestation particulièrement houleuse avait eu lieu dans cette ville où se réunissait le Parti libéral du Québec en conseil général du 4 au 6 mai et avait été l'une des journées marquantes du printemps érable. Des manifestants s'y sont rendus pour protester contre la hausse des frais de scolarité décrétée par le Parti libéral. Un plan de déploiement des forces policières avait été confectionné à l'avance et ce soir-là, 6 utilisateurs d'armes d'impact Arwen 37 qui lancent des balles de plastique étaient sur place, dont l'agent Burel. Celui-ci a été ce jour-là dépassé par les événements, n'ayant aucun souvenir concernant l'utilisation de son arme d'impact, juge le comité dans une décision datée du 24 janvier. Selon le comité, l'agent Burel n'a pas utilisé son arme d'impact avec prudence et discernement ce jour-là. 3 personnes ont été gravement blessées, dont 2 au visage. Selon la preuve déposée, rapport des autres policiers et vidéos, le comité a conclu que les blessés avaient été tous 3 atteints par l'agent Burel. Et pour terminer sur cette nouvelle, une audition aura lieu prochainement afin de déterminer la sanction à être imposée à l'agent. Lecture dans les pages éditoriales, lettre, un appel au civisme, une lettre de Michel Stanton-Jean signée hier, 29 janvier 2018. Très bon article sur un urbanisme mieux adapté aux aînés paru lundi dans Le Devoir. Il y manque une seule chose, un appel au civisme et au souci de l'autre. Avec les trottoirs glacés et les amas de neige sur le bord des rues, il serait agréable de voir de jeunes adultes aider des personnes qui ont de la difficulté à franchir des obstacles ou à traverser une rue. La plupart du temps, ils contournent avec agilité la personne qui hésite à avancer, plutôt que d'offrir de l'aide, ce qui n'est pas le cas dans les pays nordiques. Je suppose que leur ADN est différent du nôtre. Ici Hélène Denis, un grand merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. On se retrouve après la pause avec la revue de presse du Journal de Montréal.
Les Beatles avec la pièce Get Back, dernière pièce de l'album Let It Be.
En une du Journal de Montréal, climat de peur à l'Église, d'autres ex-fidèles témoignent sur les pratiques troublantes de l'Église PQL. Et un autre ex-ministre libéral veut profiter du cannabis. Pierre Petitgroux, ancien ministre de la Santé, est administrateur d'une firme qui investit dans le cannabis. Un quatrième ex-ministre de la Santé est lié à l'industrie du pot, a appris notre bureau d'enquête. Monsieur Petitgroux est l'un des administrateurs principaux de Belgravia Capital International. La firme ne produit pas de cannabis, mais elle finance une plateforme qui comprendra un programme de fidélité pour les consommateurs de cannabis et les producteurs. Ce sera un peu l'équivalent de Air Miles. C'est un tout nouveau secteur dans l'industrie du cannabis, a expliqué le PDG Mehdi Azoudi au journal. L'entreprise qui existait sous le nom IC Potache se concentre depuis mars sur le cannabis et a récemment pris le nom de Belgravia. Monsieur Petitgroux siège au conseil d'administration depuis 2009. Avoir un ancien ministre comme monsieur Petitgroux sur son CA est un atout indéniable pour monsieur Azoudi. En raison de ses contacts politiques et de sa vaste connaissance de l'industrie, et nous est très utile, dit-il. Au cours des prochains mois, nous travaillerons étroitement avec le gouvernement libéral. Avoir M. Petitgroix avec nous est très encourageant. M. Azoudi a préféré parler au nom de l'entreprise et a précisé que l'ancien ministre ne ferait pas de commentaires. Ce dernier n'a d'ailleurs pas répondu à nos demandes d'entrevue. Des fidèles le craignaient, d'autres ex-membres de PQL décrivent au journal l'emprise qu'avait Patrick Isaac sur leur vie. Jeûne fréquent, menace de malheur et utilisation du nom de Dieu sur tout, l'apôtre Patrick Isaac et ses pasteurs auraient établi un climat de peur au sein de l'Église Parole qui libère, PQL, s'assurant ainsi l'obéissance et le silence des fidèles. Il disait « Si tu parles mal d'un homme de Dieu, tu peux attraper le cancer de la bouche ». On y croyait à ces menaces, a relaté une ancienne fidèle ayant passé plus de 10 ans au sein du groupe. Celle-ci, comme presque tous les ex-membres et témoins questionnés par le journal, a requis l'anonymat par peur de représailles. Hier, le Journal de Montréal révélait que l'apôtre Patrick Isaac prêche la réussite financière dans son centre Action de l'arrondissement de Saint-Léonard à Montréal. 7 ex-fidèles ont confié avoir versé des sommes d'argent considérables à l'apôtre et à sa femme, la prophétesse Eliane Isaac, en échange de miracles ou de bénédictions. Croisé hier dans les studios de TVA, le représentant ministériel de Patrick Isaac, Steve Razier, s'est adressé au représentant du journal en mentionnant « Ça va vous faire mal ». Ensuite, en entrevue à l'émission « Salut, bonjour », M. Razier a nié que Parole qui libère incitait ses fidèles à verser des montants précis. « On donne de libre droit », a-t-il soutenu. « Un miracle, tu n'as pas besoin de le troquer. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te bénir. » Plus tard en journée, M. Razier a annoncé s'être dissocié de l'humoriste Rachid Badouri, puisqu'il était son gérant. « Quand je suis allé, des gens avaient donné de la monnaie dans la quête », a raconté l'ex-joueur du Canadien Georges Larrac. Patrick Isaac avait pris les sous dans le fond du panier et les avait lancés sur la foule. Il était insulté. Il avait dit « Ce n'est pas avec des sous qu'on bâtit une église ». C'est cet épisode qui a poussé l'ancien hockeyeur à ne plus jamais y remettre les pieds, a-t-il soutenu hier. Au moins 3 chevreuils auraient été abattus illégalement hier à Laval. La protection de la faune aurait reçu plusieurs appels de citoyens rapportant qu'un homme tirait sur des chevreuils à partir de son domicile sur le boulevard des Mille-Îles. Les animaux se trouvaient de l'autre côté de la rivière des Mille-Îles, sur l'île aux Vaches, selon nos informations. L'assistance des pompiers aurait été nécessaire pour aller récupérer les carcasses sur la petite île. Le braconnier aurait été rencontré par les autorités. Il fait la grève de la faim dans une maison insalubre. Un sinistré du printemps dernier veut que Québec verse l'argent promis. Un homme des Laurentides fait la grève de la faim à l'intérieur de la maison sinistrée et insalubre de ses beaux-parents afin que Québec débourse les sommes promises le printemps dernier avant la fin des travaux. Depuis le 26 janvier, Alexandre Casavant est installé sur un lit de camp dans la maison de ses beaux-parents, complètement dépouillé de ses murs, de ses planchers et de son isolation. Il alerte l'opinion publique à l'aide de vidéos partagées sur les réseaux sociaux et fait la grève de la faim. Le problème est que ses beaux-parents n'ont pas l'argent pour terminer les travaux dans leur résidence. Québec verse l'argent aux sinistrés uniquement lorsque les travaux sont finis. Les problèmes des beaux-parents ont débuté lors des inondations d'avril et mai 2017. L'eau a envahi la maison. Quand la situation s'est résorbée, la moisissure et les champignons avaient attaqué l'ensemble de la demeure. Le ministère de la Sécurité publique n'a pas rendu nos appels, mais le député libéral d'Argenteuil, Yves Saint-Denis, affirme qu'il suit tous les dossiers de sa circonscription de près. Alexandre Coderre ne veut pas de casier judiciaire. Son père se dit être un chômeur à sa comparution. Le fils de Nicodère doit être puni pour sa fraude de 16 000 $ en raison de sa cyberdépendance, mais il devrait pouvoir bénéficier d'une absolution, croit l'ex-maire de Montréal. L'ancien politicien qui s'est présenté est venu à la défense de son fils de 22 ans, Alexandre, qui attend sa sentence pour fraude, méfait et pour avoir menti aux policiers lors d'une enquête criminelle en 2016. Près de 15 000 parents devront reconduire eux-mêmes leurs enfants à l'école aujourd'hui et demain à Montréal en raison d'une grève de chauffeurs d'autobus scolaires. Les quelques 330 conducteurs de la compagnie Transco n'ont pas réussi à s'entendre avec la partie patronale hier et ont décidé d'aller de l'avant avec leur débrayage. Des écoles de quatre commissions scolaires différentes sont touchées, soit English Montréal, Marguerite Bourgeois, commission scolaire de Montréal, Lester B. Pearson, ainsi que le collège privé Sainte-Anne. Il était depuis des mois dans le collimateur du président Donald Trump et se savait sur un siège éjectable. Le directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, a été poussé au départ hier. Le haut fonctionnaire policier âgé de 49 ans faisait l'objet depuis 2016 de critiques récurrentes de M. Trump et de responsables républicains qui l'accusaient d'être proche des démocrates. Mais la Maison-Blanche a décliné toute responsabilité dans son départ de la direction de la police fédérale. M. Trump n'a joué aucun rôle dans cette décision, a assuré hier la porte-parole de l'exécutif, Sarah Sanders, devant la presse. L'élu trentenaire Joseph Kennedy III, petit-fils de Robert Kennedy et petit-neveu de l'ancien président John F. Kennedy, prononcera ce soir la réponse des démocrates au discours annuel sur l'état de l'Union du président républicain Donald Trump. Le grand congressman, roux à la mâchoire carrée, âgé de 37 ans, représente une circonscription du Massachusetts à la Chambre des représentants depuis 2013 et est le dernier Kennedy en date à porter les couleurs démocrates en politique. Elle a vendu son bébé nouveau-né pour 166 euros, environ 250 $, et a aussitôt dépensé cet argent pour un billet d'avion. Une ressortissante ouzbèque a été condamnée hier à 4 ans de prison à Saint-Pétersbourg, a-t-on appris auprès d'un tribunal local. Cette femme de 28 ans, originaire d'Ouzbékistan, ex-république soviétique d'Asie centrale, s'est mise d'accord avec un couple de ressortissants de la même région en été 2016 pour leur vendre son futur bébé. En octobre 2016, lorsqu'elle a donné naissance à son fils, elle l'a vendu et a aussitôt dépensé l'argent pour un billet d'avion vers l'Asie centrale. Le couple qui a acheté l'enfant a pour sa part été condamné à 3 ans de prison. André Arthur, encore chassé des ondes, il perd son micro à la station de radio BLVD au boulevard après des propos qui ont été jugés homophobes. C'est la fin de l'aventure pour André Arthur à BLVD 102,1. L'animateur controversé s'est fait montrer la porte hier, 5 jours après avoir tenu des propos jugés homophobes en ondes. Passe par la rue.
dommage.
Et on vient d'entendre les Sœurs Boulay avec la pièce Jus de boussole.
Et on commence la tournée des journaux régionaux avec Le Soleil, chronique de François Bourque. Le plus difficile reste à faire. Le plus touchant dans ces témoignages de familles éprouvées par le deuil, c'est leur sincérité dans le drame, leur confiance renouvelée dans l'autre et dans l'avenir, leur gratitude pour l'accueil et le soutien reçu. On s'en était ému l'an dernier déjà au lendemain de la tuerie lorsqu'on l'avait entendu de leader de la communauté musulmane. Des mots de paix et des mains tendues dans ces heures où on aurait pu craindre l'escalade ou la réplique. Un an plus tard, voici qu'on les entend de nouveau avec la même force et la même dignité, cette fois venant des veuves et d'enfants qui ont perdu un mari, un père. Lundi soir, près de la grande mosquée, devant une foule transie par la froidure de la pleine lune de janvier, les témoignages des familles imposaient un autre mot, résilience. Safia Hamoudi, veuve de Caleb Belkacemi, tenait à dire merci et à inviter à ne pas juger l'autre, quel que soit son nom, son origine, apparence ou sa couleur de peau. Puis son fils d'ajouter « faire des efforts pour se rapprocher, se connaître, se reconnaître, se dire bonjour dans la rue quand on se croise. J'ai mis du temps à reconnaître la beauté et la bonté qui jaillit de l'horreur », est venue à raconter Nathalie Provost, qui avait 23 ans ce jour de décembre 1989, où elle est tombée sous les balles du tueur de Polytechnique. J'ai mis du temps à me relever, mais déjà, je vous vois presque debout, s'est-elle émerveillée. Je vous entends avoir la force de dire merci. Je vous vois ensemble nous parler de tolérance et de rapprochement. Vous nous ouvrez la porte et votre cœur malgré tout. Ce témoignage a ajouté à ceux des familles une force et une perspective que l'on n'aurait sans doute pas vue autrement. Dans le stationnement de l'église catholique Notre-Dame de Foix, 2000 personnes rassemblées au pied de la tribune, des couples, des jeunes, des familles, des enfants, des origines et confessions diverses. Moins nombreux peut-être que ce que j'aurais imaginé, mais beaucoup pour un soir soufflé par un vent aussi glacial. En fond de scène, le clocher de pierre de l'ancienne église et le vieux presbytère épargné par l'incendie de 1977. Derrière, la grande mosquée où des participants venaient déposer leurs lampions et des mots de réconfort au sortir de la vigile. Des élus de tous niveaux et de toute famille politique y étaient, ce qui a donné à ce rassemblement une portée symbolique forte. Sur le plan politique, c'était cependant une sortie facile. Cela n'enlève rien à la sincérité de leur compassion ni à la peine qu'ils ont pris de se déplacer. Mais c'était une sortie sans risque politique. Il n'y avait même pas à se demander « est-ce que j'y vais ou pas ?» Il fallait y être et ils y étaient. Pas de question non plus sur ce qu'il convenait de dire ou ne pas dire. Le script s'imposait de lui-même. Redire son empathie pour les victimes, les familles et les proches, pour la communauté musulmane et celle plus large de Québec et du pays, touchée aussi à des degrés différents par le drame. Le script, c'était de condamner l'intolérance, la haine et la violence, de redire que ce qui est arrivé à la grande mosquée de Québec, on souhaite que ça n'arrive plus jamais, ni ici, ni ailleurs. Le script, c'était d'inviter au vivre ensemble, à l'ouverture et au respect des différences. Ces choses, il convenait bien sûr de les redire en ces jours de commémoration. Le plus difficile, c'est ce qui vient après, résister à la tentation. Résister à la tentation d'utiliser la mosquée, le voile, les signes religieux, l'immigration et les peurs de l'autre à des fins politiques. D'en faire des instruments et des programmes qui risquent de raviver les tensions et discours extrêmes, et ce faisant, saboter les efforts du vivre ensemble. En cette année électorale qui commence, il sera difficile d'éviter complètement ces enjeux. On peut cependant se souhaiter que les dérapages pourront être évités. Le plus difficile, ce sera de réussir une meilleure éducation aux différences culturelles pour désamorcer enfin les peurs inutiles qui viennent de l'ignorance de l'autre. On y revient toujours, on se dit que c'est là qu'il faut agir, mais on n'y met pas toute la volonté qu'il faudrait. Ce soir, j'aurai une question pour vous tous, a lancé le premier ministre Justin Trudeau, sortant du script prévisible. C'est facile, dit-il, de condamner le racisme. On sait c'est qui les racistes. C'est l'autre, les nonos qui se promènent avec des pattes de chien sur le T-shirt. C'est toujours l'autre. Mais si c'est l'autre, pourquoi le mot islamophobie met-il si mal à l'aise? Le plus difficile sera de trouver réponse à cette question. Texte d'Annie-Claude Brisson dans le quotidien 44 et 40 ans d'ancienneté au PFK. Alors que les entreprises peinent à recruter et conserver leur main-d'œuvre, le restaurant PKP d'Alma pourrait bien servir d'exemple. En plus de la recette secrète du colonel, l'établissement semble aussi détenir la recette parfaite de gestion des ressources humaines. Clémence Bergeron, qui célébrera 45 ans de service le 6 septembre prochain, a encore la passion de servir la clientèle. Entre deux commandes, elle prend plaisir à se remémorer ses débuts chez PFK à l'âge de 16 ans, alors qu'elle était encore étudiante. À l'époque, le restaurant était le seul à offrir un menu de type restauration rapide. Lors de la fête du colonel, les clients faisaient la file sur plusieurs mètres pour profiter des offres spéciales, ajoute-t-elle. Celle qui travaille encore 30 heures par semaine à titre de caissière ne s'est jamais posé de questions quant à son travail. Alors que ses amis se retrouvaient sans emploi et au chômage, elle a toujours été occupée. « C'est comme si c'était hier, ça a passé tellement vite », affirme-t-elle. Lors de la période des fêtes et lors des vacances estivales, plusieurs clients reconnaissent celle qui travaille pour PFK depuis 4 décennies. Plusieurs amitiés sont nées avec d'anciens collègues et clients. Madame Bergeron n'est pas la seule à avoir consacré des décennies au colonel Sanders. C'est dans la bonne humeur et en pleine entrevue qu'elle nous a présenté son collègue et ami Claude Lessard, qui compte 40 ans de loyaux services. Celui que l'on voit dans la cuisine du restaurant Almatois a aussi travaillé pendant plusieurs années au restaurant de Dolbeau-Mistassini. Il confie avoir l'intention d'atteindre le cap des 50 ans d'ancienneté. Impossible de ne pas poser la question. Clémence Bergeron n'a jamais rencontré le colonel Sanders. Toutefois, elle nous a mentionné que celui-ci est déjà venu faire son tour à Alma. La légende veut que le fondateur de la chaîne, mort en 1990, ait visité la ville le temps d'une publicité. Dans le droit, moins de contrôles de routine à Ottawa, Benoît Sabourin qui signe l'article. Le nombre de contrôles de routine est en dégringolade au service de police d'Ottawa depuis l'entrée en vigueur en 2017 des nouvelles règles provinciales régissant la collecte d'informations par des agents de la paix. C'est ce qui ressort de données émanant d'un rapport abordé lundi autour de la table lors de la commission de services policiers d'Ottawa. Selon les chiffres confirmés par le chef adjoint du service de police d'Ottawa, Steve Bell, les policiers ont effectué environ 7 000 contrôles de routine en 2015. Ce nombre a atteint 4 000 en 2016. Pour 2017, année de l'entrée en vigueur des nouvelles règles visant à proscrire les contrôles aléatoires qui pouvaient être basés sur la race ou encore le lieu de résidence de la personne interceptée, à peine 4 cas officiels auraient été comptabilisés. Depuis le 1er janvier 2017, les policiers ontariens peuvent ficher une personne seulement, lorsqu'ils enquêtent sur des activités criminelles ou encore sur des activités considérées comme étant suspectes. Ils peuvent également réaliser un contrôle de routine lorsqu'ils collectent des informations aux fins du renseignement. Questionné sur cette chute drastique du nombre de dossiers lundi, Steve Bell a répondu au commissaire que les agents devaient s'habituer à la nouvelle loi. Et dans la tribune, les embûches tombent autour de la voie de contournement. Les embûches tombent une à une pour favoriser la réalisation de la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. C'est la constatation que fait le député de Mégantic, Ghislain Bolduc, à la suite des développements observés dans ce dossier au cours des dernières semaines. Un autre coup de pouce encourageant est venu lundi quand le ministre des Transports du Québec, André Fortin, s'est présenté à Ottawa pour participer à une rencontre fédérale-provinciale des ministres des Transports canadiens. M. Fortin avait la ferme intention de soulever le dossier avec son homologue fédéral Marc Garneau. En s'y présentant, il a salué l'intention du gouvernement libéral de Justin Trudeau d'investir une somme substantielle pour la construction de la nouvelle voie ferrée permettant de contourner Lac-Mégantic. Selon M. Bolduc, la machine est en marche dans le but de conclure rapidement une entente sur le financement de la construction de cette voie. C'est une rencontre qui était prévue depuis un certain temps, mais je sais que le ministre Fortin voulait en parler avec le ministre Garneau à la suite de sa déclaration de la semaine dernière sur la participation du fédéral, explique le député Bolduc, qui est adjoint parlementaire du ministre des Transports. Disons qu'on joint l'utile à l'agréable. Les choses avancent et des fois, il faut les aider. L'annonce faite par M. Garneau la semaine dernière n'a rien à voir avec nous. Elle n'a pas été déclenchée par les élections au Québec. Jointe par la tribune, la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, s'est réjouie encore une fois des derniers événements. Les deux paliers de gouvernement se parlent. Tout le monde veut que ça avance rapidement pour en arriver à une entente. Mme Morin ajoute que d'autres discussions auront lieu cette semaine au chapitre régional entre les municipalités impliquées. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens en ce mardi 30 janvier 2018. C'est Hélène Denis avec vous, avec grand plaisir. Merci d'être là. Et puis, on se retrouve avec une belle demi-heure, actualité culturelle et sujet libre. Restez avec nous.